Il y a un passage que je n'ai pas eu le temps de prendre ce matin et que je voudrais reprendre. C'est le psaume 82. Psaume 82, verset 6. Ce texte est un texte fort intéressant dans le contexte. Pourquoi ? Si je lis le titre du psaume dans la Bible de Jérusalem, je vois contre les mauvais juges.
Contre les princes païens.
Les princes
païens.
Païens.
Apostrophe aux princes et aux juges iniques.
Oui, c'est ça.
Dans une perspective eschatologique.
Exactement. On peut dire païens, c'est vrai, mais moi j'ai l'impression que c'est tous les juges. Et je crois bien que Saint Jean l'a pris un peu dans la perspective que nous avons vu ce matin des diatribes des prophètes contre les mauvais pasteurs. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement ? Et on entend bien, ce psaume a du sens à travers le procès du chapitre 7. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Au malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. C'est vrai que les impies peuvent être des païens, mais les impies peuvent être chacun d'entre nous. Sans savoir, sans comprendre, ils vont par la ténèbre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. Moi, j'avais dit, vous, les dieux, des fils du Très-Haut, tous. Donc Dieu avait reconnu son image dans les hommes. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul, au prince, vous tomberez. Lève-toi, ô Dieu, juge de la terre, car tu domines sur toutes les nations. Ce que vous voulez simplement retirer de ce texte qui est cité à la fin, au verset 34, ne se trouve-t-il pas écrit dans votre loi? Moi je dis, des dieux vous êtes. La loi, c'est aussi la le psaume, hein, comme vous voyez ici. Si Dieu dit cela à l'adresse de qui la parole de Dieu arriva, parce que se sent pris par ce psaume, celui qui le prie, évidemment, pas celui qui l'ignore. Et elle n'est pas déliée, l'Écriture. Celui que le Père sanctifia, consacra, celui dans lequel le Père mit toute sa sainteté, et envoya vers le monde, vous vous dites blasphème. Et voici que le juge est jugé, par ce qu'il dit. Parce que je dis, fils de Dieu, je suis. Mais il faut même que je le dise de vous. Alors, c'est exact que je peux le dire de moi aussi, mais dans un sens encore plus profond. C'est grâce à moi que vous êtes fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas à moi. Et si je les fais, et qu'éventuellement à moi vous ne croyez pas, croyez aux œuvres, afin que vous ayez connu et que vous connaissiez qu'en moi le Père est et que moi je suis. Il cherchait de nouveau à appréhender et il sortit de leurs mains. Il s'éloigna de nouveau au-delà du Jourdain, vers le lieu où Jean était d'abord. Et donc voilà que nous retrouvons Jean-Baptiste. Au moment où Jésus est de plus en plus coincé, comme le disait Pierre Emmanuel, au fond c'est Jésus qui est coincé. Derrière la femme, c'est le personnage de Jésus. Et il retrouve le commencement, c'est le commencement, c'est-à-dire le baptême, et en même temps, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi le moment où on a dit que Jean n'avait pas encore été mis en prison, car Jean a été mis en prison. Le témoin passe par où le maître est passé, il donne sa vie pour ses brebis, le témoin est amené à donner sa vie aussi pour celui dont il témoigne. Il s'éloigna de nouveau de là du Jourdain, vers le lieu là où était Jean d'abord, maintenant. Et il demeura là. Et beaucoup vinrent auprès de lui, et il disait, d'une part, Jean ne fit aucun signe. D'autre part, tout ce que dit Jean au sujet de celui-ci est vrai. Donc on a besoin du témoignage de Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. Et en même temps, Jean-Baptiste montre bien la supériorité de Jésus qui le dépasse. Il est venu derrière, mais il est le premier de lui. Et beaucoup crurent vers lui là. Et vous remarquez que Saint Jean n'a pas peur de marquer autant, à travers les oppositions et les oppositions qui grandissent, la foi qui grandit elle aussi. Donc il y a constamment une espérance, et cette espérance surgit dans les gens, un peu plus. Nous continuons. Nous prenons le chapitre 11e, et nous retrouvons de nouveau devant un récit. Nous étions avec le chapitre 9, le témoin, et nous allons trouver un autre témoin, Lazare. Car Lazare a fonctionné comme témoin. Témoin de celui qui vient à la vie. L'aveuglé était témoin de celui qui vient à la lumière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Or, il y avait quelqu'un s'affaiblissant, Lazare de Béthanie. On est d'ailleurs, on n'est plus d'ailleurs. On n'est plus à Jérusalem, mais dans le temple. On est encore dans le temple, mais la caméra se transporte vers Béthanie. Du village de Marie et de Marthe, ça sort. Et comment on les présente? Lazare, Béthanie, du village de Marie et de Marthe, ça sort. Comme si ces deux personnes étaient bien connues, on ne les a pas encore entendues dans l'Évangile. Or, elle était Mariam, celle qui enduisit le Seigneur le parfum, ah, on ne savait pas. Donc on verra après. Une petite anticipation. Or elle était Mariam, celle qui enduisit le Seigneur le parfum, et essuya ses pieds avec ses genoux. Dont le frère Lazare s'affaiblissait. Elles envoyèrent donc les sœurs auprès de lui, disant, Seigneur, vois. Celui que tu affectionnes ou que tu chéris, c'est le mot fidèle, mais disons dans une qualité humaine d'amour, celui que tu affectionnes s'affaiblit. Or, ayant entendu, Jésus dit, cette faiblesse n'est pas auprès du mort, mais pour la gloire de Dieu. Il reprend ce qu'il avait dit avec l'aveugle né. Pourquoi il est aveugle? Ah, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. La gloire de Dieu se manifeste. Mais pour la gloire de Dieu, afin que fût glorifié le Fils de Dieu par elle. Or, il aimait, c'est plus chéri, c'est aimé. Or, il aimait Jésus, Marthe, et sa sœur, et la femme, les amis de Jésus. Comme donc il entendit qu'il savait lui. Alors pourtant, il demeura dans le lieu dans lequel il était pendant 2 jours. Jésus sait qu'il est malade, et cependant, il reste. Il fait patienter le matin. Et puis, après cela, il dit aux disciples, allons, vers la Judée, de nouveau.
C'est pas plus qu'on commençait frère, il demandait de monter à l'arbre.
Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il recommence comme il a commencé au chapitre 7. À quelle fête marche-t-on? Vers quelle mort va-t-on? Eh bien, ça explique le sens du mort, de la mort, de toute mort. Allons vers la Judée de nouveau. Il lui dit le disciple, ah, Rabbi, maintenant il cherche à te lapider les Juifs. Et de nouveau tu parles là. Ils étaient justement écartés, ils respiraient un petit peu les disciples, et voilà de nouveau qu'ils. On va tourner en Judée, qui va pas. Il répondit Jésus, n'y a-t-il pas 12 heures du jour? Si éventuellement quelqu'un marche dans le jour, il ne se heurte pas, parce que la lumière de ce monde, il regarde. On voiture. Or, si éventuellement quelqu'un marche dans la nuit, il n'y a pas de réverbère à l'époque, il se heurte parce que la lumière n'est pas en lui.
Ah.
Nous attendrions, tout le temps, Jean nous surprend constamment, nous attendrions parce qu'il ne marche pas dans la lumière. Eh bien, parce que la lumière n'est pas en lui. Donc, on trébuche sur soi-même. Cela, il le dit. Et après ceci, il leur dit, Lazare, notre ami, se trouve endormi. Mais je fais route, afin que je le sorte du sommeil. Il lui dit donc les disciples, Seigneur, s'il se trouve endormi, il sera sauvé. Or, il avait dit Jésus au sujet de sa mort. Or, ceux-là pensèrent au sujet de l'endormissement du sommeil. Il parle. Nous vous consentons. Pas de détails matériels, nous sommes toujours comme ça. Nous partons des détails matériels, nous comprenons ce que nous voulons bien comprendre. Et il faut que Jésus nous secoue un petit peu. Je n'ai pas été loin. Alors donc, il leur dit Jésus avec assurance. Avec assurance, c'est la même chose qu'en public. Comme on nous a vu, hein, tu vas en secret, tu vas en public. Manifeste-toi au monde. Il leur dit avec assurance, Lazare est mort. Et je me réjouis. En raison de vous. Afin que vous croyiez. Parce que je n'étais pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me réjouis en raison de vous, afin que vous croyiez. Il vient de dire, justement, que si Lazare est malade, eh bien c'est pour que les œuvres de Dieu, hein, plutôt que la gloire de Dieu, se manifeste. Et je me réjouis parce que je n'étais pas là. Parce que vous allez pouvoir découvrir que je ne suis pas seulement le maître de la santé, mais le maître de la vie. Il faut qu'on découvre jusqu'où il sauve l'homme. Rendez bien compte que c'est de cela qu'il s'agit, à travers toute cette trajectoire, comment et jusqu'où Jésus sauve l'homme. Mais allons auprès d'eux. Il dit donc, Thomas, celui qui est dit Didyme, Didyme ça veut dire le jumeau, hein. Thomas veut dire, la racine hébraïque veut dire jumeau, Thomas. Il dit donc, Thomas, celui qui est dit Didyme, jumeau, au condisciple, allons nous aussi, afin que nous mourions avec lui. Il n'a pas compris grand-chose, il a compris qu'il s'agissait de mort, alors il veut mourir, on va mourir avec un. Hein. Lazare est mort, tu vas mourir, Thomas dit.
Tous allons mourir.
Il veut voir à la même cour.
Évidemment. C'est la même chose que les deux fils de Zébédé qui viennent avec maman Zébédé, là. Demander à Jésus, tu veux me donner à ces deux fils une première place et une deuxième place dans ton royaume des ministres. Jésus dit, vous boirez ma coupe, le reste, on va partir. Et étant donc venu, Jésus le trouva, ayant déjà 4 jours dans le tombeau. 4 jours, ça fait la mort. Hein. D'après le judaïsme de l'époque, l'âme d'un mort circulait tout autour de lui, hein, elle essayait de rentrer dedans, vous voyez, encore, pendant 3 jours. Mais le 4e jour, la putréfaction devait normalement commencer le 4e jour, d'après la mentalité du temps, bien entendu. Mais pourquoi vous voyez le sens que peut avoir le 2, 3 et 4? Étant donc venu, Jésus le trouva ayant déjà 4 jours dans le tombeau. Ça y est, maintenant fini. Là, la mort est bien. Or, elle était Béthanie, proche de Jérusalem, environ de 15 stades, 5 kilomètres. Or, beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Mariam, et qu'ils jouent sur le mot, hein, Mariam, Marie, et on trouve de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre. Dans les cas. Afin de leur prodiguer réconfort au sujet du frère. Marthe donc, comme elle entendit que Jésus vient, vint à sa rencontre. Or, Mariam était assise dans la maison. Elle était plus vive et l'autre plus contemplative, ça recoupe bien ce que nous voyons au chapitre 10 de Saint Luc. Elle dit donc, Marthe, à l'adresse de Jésus, Seigneur. Vous remarquez qu'on va appeler Jésus peut-être également Seigneur maintenant. Seigneur, c'est le maître de la vie et de la mort, hein, de ressusciter. Seigneur, si tu avais été ici, il ne serait éventuellement pas mort. Pas tout à fait sûr, mais enfin, il aurait beaucoup de chance. Mais maintenant, je sais aussi que tout autant qu'éventuellement tu réclameras de Dieu, il te le donnera. Donc lui, il peut bien t'exaucer. Maintenant. Il lui dit, Jésus, il se dressera, ton frère. Et il utilise précisément sa racine cum, se dresser, se lever, qui était comprise comme signifiant la résurrection. Il se dressera, ton frère. Donc, Marthe et Marie sont de bonnes pharisiennes. Elles croient à la résurrection des morts. Les Sadducéens n'y croyaient pas. Et bien les pharisiens. Donc, elles tiennent son groupe. Elles déterminent sa foi en la résurrection. Je sais qu'il ressuscitera. Elle dit, Marthe, je sais qu'il se dressera dans la résurrection, dans le dernier jour. C'est tout pour tout de suite. Il lui dit Jésus, moi, je suis, encore un je suis, la résurrection et la vie. Celui qui croit vers moi et éventuellement meurt, il vivra. Et la vie était la lumière des hommes. Je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie. Vous voyez que ça avance, vous savez. Et tout qui vit et croit vers moi, non certes, ne mourra pas vers l'éternité. Crois-tu ceci? Alors, il demande à Marthe de faire un grand saut. Ce qu'elle estime pour être, qui adviendra, pardon, pour son frère le dernier jour, Jésus lui demande de le croire pour tout de suite. Et c'est exactement le saut que les pharisiens de l'entourage de Jésus, vont devoir faire. Croire que la résurrection n'est pas seulement quelque chose qui adviendra, mais c'est quelque chose qui est advenu. Et vous verrez comment Pierre-Emmanuel dit d'une manière extraordinaire. Donc, mais je suis la résurrection, moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit vers moi peut éventuellement meurt. Donc, moi je n'empêche pas les gens de mourir. Et il vivra. Donc vivre, c'est quelque chose d'autre que ce que je pense, ce qu'il y a comme terme là. Vivre, c'est être axé sur, lié à Jésus. Et tout qui vit et croit vers moi, non certes ne mourra pas vers l'éternité. Donc il est déjà passé, on le dira Saint Paul, de la mort à la vie. Crois-tu ceci? Je lui dis, oui, Seigneur. Moi, je me trouve croyant que toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est la chose essentielle. Celui qui vient vers le monde, Christ, le Fils de Dieu, je crois que c'est le milieu, c'est le maître. J'ai mis en rouge les titres qui sont donnés à Jésus. Ça continue la première vague, la première
étape. Je vais venir.
Et autre nom?
Je vais venir ici la Bible de Jérusalem. Ça change quand même. Celui qui vient ou qui doit venir, c'est la nécessité du plan de Dieu.
Non, ce n'est pas un doigt. C'est celui qui vient.
Il vient dans la deuxième édition.
Oui. Il n'y a pas de Mellone. Il n'y a pas de deuil. Il a celui qui vient. Or, comme un os. Donc c'est déjà un tangoum, une explicitation de dire qu'il doit venir. On peut le comprendre comme ça, d'accord, mais le texte parle immédiatement. C'est « Oher Kogonos, celui qui est en train de venir vers le monde. » Et ayant dit cela, elle s'éloigna et elle interpella Mariam, sa sœur, ayant dit à l'insu des gens, « Le maître est présent, il t'interpelle. » Or, celle-là, comme elle a entendu, fut éveillée. Être éveillée, c'est ressusciter. La voilà déjà qui est en route, fut éveillée vite. Et elle venait auprès de lui. Celui qui vient dans le monde, elle venait auprès de lui. Il n'était pas encore venu. Le jeu des venir est important. Il n'était pas encore venu, Jésus, vers le village. Mais il était encore dans le lieu, là où Marthe était venue à sa rencontre. Là, on voit que ça a du sens.
C'est comme s'il y avait une hésitation.
Oui, et en même temps, c'est comme si Jésus ne voulait pas aller trop vite.
Comme quand l'heure n'était pas venue.
Ah oui. Il y a un processus de foi à respecter. Les Juifs donc, ceux qui étaient avec elle dans la maison, on va en parler un peu plus haut, et lui prodiguer les conforts, ayant vu Mariam, que rapidement elle se dressa et sortit, elle se dresse. Elle fait déjà ce que Lazare l'a suivi, ayant pensé qu'elle parle le tombeau, afin qu'elle pleure. Mariam donc, comme elle vint là où était Jésus, l'ayant vu, elle tomba auprès de ses pieds, lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, il ne serait éventuellement pas mort, mon frère. Elle se trouve au même niveau que sa sœur. Dit donc, comme il la vit, pleurant, et les Juifs s'étant réunis à elle, pleurant, il frémit par l'esprit et se troubla lui-même, comme s'il voulait vraiment participer à ce deuil, à cette souffrance des deux sœurs. Il frémit par l'esprit. Par l'esprit, vous pouvez écrire avec un petit peu ou avec un grand peu, comme vous voulez. Et se troubla lui-même. Et il dit, où l'avez-vous mis? Et lui dit, Seigneur, viens et vois. Vous vous rappelez le viens et vois du début de l'évangile? C'est les deux disciples qui suivaient Jésus. Où demeures-tu?
Viens et vois.
Il lui dit, où demeures-t-il? Voilà. Viens et vois. Où demeures-t-il? Mais Jésus ne dit pas où demeures-t-il, il dit, où l'avez-vous mis? Il dit, Seigneur, viens et vois. Il versa des larmes. Ce n'est pas le même verbe, ce n'est pas pleurer, c'est verser des larmes. Et là aussi, vous avez des pages très fines de saint Augustin notamment, qui dit que ce n'est pas la même chose. Verser des larmes, c'est le faire librement. Pleurer, c'est parce qu'on est nécessité par un besoin, par une souffrance. C'est comme s'il y avait... C'est le manque qui nous fait pleurer. Les larmes sont un signe de manque. Le pleurer. Tandis que verser des larmes, c'est un signe de proximité, c'est une surabondance. Il le fait librement pour elle, pour être avec elle, pour vivre ce qu'elle vit. Puis disait-on, les Juifs, vois comme ils le chérissent, comme ils l'affectionnaient, comme vous voulez. C'est l'autre verbe, ce n'est pas agapan, c'est philae. Or certains d'entre eux disaient, bah, ne pouvait-il pas celui qui ouvrit les yeux de l'aveugle faire afin que celui-ci ne mourût pas quand même, hein? Ça aurait simplifié le problème. Vous voyez que Jésus, et saint Jean nous dit bien, Jésus n'a pas voulu faire cela. Il s'est arrêté. À quel fait est-ce que je vais? Vers quelle mort est-ce que je vais? Jésus donc, frémissant de nouveau, c'est vraiment un frémissement de tout l'être, tout l'être qui a mal, en quelque sorte, en lui-même, vient vers le tombeau. Il vient vers le monde et il vient vers le tombeau. Il vient vers la mort dans laquelle nous sommes emprisonnés, autrement dit. Or, c'était une caverne et une pierre était pressée sur elle. Et elle dit, Jésus, enlevez la pierre. Elle lui dit, la sœur de celui qui se trouvait décédé, c'est pas le même mot que de mourir, il ne faut pas dire autrement, Marthe. Seigneur, déjà il sent, car du quatrième jour il est. Ça c'est après, c'est quatre jours dans le tombeau, on ne peut plus ouvrir le tombeau. Et lui dit Jésus, ne te dis-je pas que si éventuellement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faudra expier un peu plus longtemps, hein, Marthe. Ils enlevèrent donc la pierre. Vous voyez que Marthe a dit ça, elle n'a pas senti qu'il sentait. Puisqu'on enlève la pierre après. C'est une réflexion première. Ils ne sont pas bêtes, hein, les évangélistes. Il ne faut pas en faire. Il ne faut pas imaginer ce qu'ils ne disent pas. Écoutez bien maintenant ceci. Ils enlevèrent donc la pierre. Or Jésus enleva les yeux en haut. C'est le même verbe. Et il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'entends. Pour moi, je savais qu'en tout temps tu m'entends. Mais en raison de la foule qui se tient autour, je dis. D'ailleurs, Marthe avait dit ça aussi, hein. Jésus, je sais bien que tout ce que tu demanderas, à Dieu, il te donnera le corps. Et Jésus dit le même, Père, je te rends grâce parce que tu m'as entendu. Tu m'as entendu. Quand je rends grâce, c'est parce que j'ai été entendu. Quand je prie, c'est parce que j'ai été exaucé. Nous prions pour être exaucés, mais c'est l'exaucement qui nous fait prier. Qu'est-ce que c'est que l'exaucement ? C'est être en rapport avec Dieu. Je prie pour être en rapport avec Dieu. Je prie parce que je suis en rapport avec Dieu. Et je te rends grâce parce que tu m'entends. Or, moi, je savais qu'en tout temps, tu m'entends. Mais en raison de la foule qui se tient autour, je dis, il faut quand même bien qu'elle perçoive aussi quelque chose. Afin qu'ils croient que toi, tu m'envoyas. Non pas afin qu'ils croient que j'ai le pouvoir de réfléchir. Il est mort, non, afin qu'il croit pour toi, tu m'envoies. Parce que je vais manifester, en ressuscitant Lazare, ce qu'est exactement donner la vie. Et en dit cela, d'une voix grande, il poussa un cri. Lazare, allons, dors. Il sortit, celui qui se trouvait mort, se trouvant lié aux pieds et aux mains de bandes. Et son visage d'un linge se trouvait enveloppé. C'est comme ça aussi que Jésus sera mis au tombeau. Vous voyez, déjà anticipativement, vous avez une image de Jésus. Et il lui dit Jésus, déliez-le et laissez-le.
Laissez-le aller, c'est qu'il puisse entrer sur lui.
Si ce n'est pas entrer, sortir, venir partir, quitter. Bon, nous en étions là temporairement et nous reprenons.
Il y a une parenthèse qui tombe.
Les gens d'abord, il faut toujours retourner au lieu de son baptême. C'est là que tout a commencé. Ils cherchaient donc de nouveau à l'appréhender, et il sortait de leurs mains, et il s'éloigna de nouveau au-delà du Jourdain. Quand on veut mettre la main sur nous, il faut retrouver le lieu où nous découvrons que nous sommes fils. C'est ça qui nous apaise le cœur. Vous voyez, vers le lieu, là où était Jean d'abord baptisé. N'oubliez pas que c'est l'endroit où Jésus avait été baptisé, où il avait par moi, où Jean avait vu l'Esprit se reposer sur lui.
Est-ce qu'on dit que l'Esprit a baptisé Jésus?
Non. Ah non, 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 non. On ne dit pas qu'il a baptisé. Jean ne dit pas. Il dit celui sur qui tu verras l'Esprit reposer, demeurer. Mais il demeura là. Là où était Jean baptisant, et il demeura là, vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'attaches littéraires. Et beaucoup vinrent auprès de lui, et ils disaient, d'une part, Jean ne fit aucun signe, donc on va mettre Jean le témoin, et Jésus celui dont on témoigne. On va les mettre l'un en face de l'autre. D'autre part, tout ce que dit Jean au sujet de son ciel. Donc, lui, c'est posé comme à l'initiative d'un geste, le geste du baptême, et puis tout ce qu'il a de sujet, c'est exact. Donc, on peut croire Jean, autrement. Donc, ces deux versets nous disent une chose importante. On ne croit pas à Jésus si on ne croit pas à Jean. Ce qui veut dire, autrement, en d'autres termes, c'est on ne découvre pas Jésus comme un aéronyte, il a un passé. Et ce passé, c'est la réalité du judaïsme. Il résume, Jean le Baptiste résume tout ce qui a précédé Jésus. Il y avait quelqu'un s'affaiblissant ou étant faible, difficile. On peut prendre l'imparfait comme une situation, ou bien comme une situation qui perdure et qui continue. Quelqu'un s'affaiblissant. Lazare, issu de Bethanie. Le mot Lazare veut dire celui qui aide, aider. Encore en arabe, aujourd'hui, vous avez près de Bethanie un quartier qui s'appelle El-Azariye. El-Azariye, ce qui aide, Lazare. Lazare, c'est exactement la même racine, le Ozer, celui qui aide, de Bethanie. Bethania, je vous ai dit que ça pouvait dire maison d'oppression, maison d'obéissance. Du village de Marie, Maria veut dire normalement la maîtresse, le mot Mariam ou Meiriam veut dire la lumière de la mer. Mais le nom de Myriam vient de l'égyptienne. Bret Ya, qui veut dire l'aimé de Dieu. Bret Aton, c'est l'aimé d'Aton. Bret Ra, c'est l'aimé de Ra. Dieu Ra. Du village de Marie, et de Martha, moins clair, Martha n'est pas immédiatement un nom hébraïque. Peut vouloir dire aussi aider. Peut-être que ça peut venir de la même racine égyptienne. Mais Jean ne donne pas tellement de sens, de signification à ces mots. Lui t'en donne plus que Jean. Or, elle était Mariam. Il y a eu beaucoup de femmes qui s'appelaient Maria ou Mariam. Tu vois les différentes épouses des robes. Or, elle était Mariam, celle qui enduisit le Seigneur parfum. Donc, on nous annonce quelque chose qui va venir, mais qui existe dans le souvenir des personnes. C'est intéressant, ça. Parce que ça veut dire que au moment où ce texte a été composé, pas nécessairement le réacteur final, mais au début de toute la tradition, celui-là parlait déjà pour des gens qui avaient un souvenir réel. De Marthe et Marie. Elle était Mariam, celle qui enduisit le Seigneur de parfum, et qui a ses pieds avec ses cheveux. Ce n'est que chez Saint Jean, que c'est la sœur de Lazare, celle qui, plus loin, qui est de Jésus.
Ou bien ça veut dire qu'on connaissait les autres évangiles.
Et qu'on aussi,
fait allusion.
Une autre possibilité. Ça. Il essuya ses pieds avec ses cheveux, dont le frère Lazare s'affaiblissait. La difficulté, c'est que les autres évangiles ne donnent pas le nom de Marie, la sœur de Lazare.
ça veut annoncer la mort de Jésus en filigrane.
Ah oui. Ah oui. Ça veut nous dire, une première chose, c'est qu'on ne peut pas regarder la mort de Lazare, donc la mort d'un ami, non la mort d'un être cher, donc la mort de quelqu'un, sans la mettre en rapport avec celle de Jésus. C'est dit au départ. Et quand on prend cet évangile pour une messe de funérailles, c'est une chose, mais on n'a pas, toujours le temps d'expliciter tout le texte. Souvent on prend un petit morceau. Mais c'est une chose qu'on pourrait peut-être dire. Que notre mort n'a de sens qu'avec celle de Jésus. Parce que notre mort est un signe de résurrection. Et nous voyons, on laisse auprès de lui, disant, Seigneur, vois celui que tu affectionnes, ce que. Et vous voyez que quand on parle de relation, d'amitié, ou de tendresse, d'affection, c'est le terme qui est utilisé pour les hommes. Philae, chérir, affectionner, aimer de manière tendre, humaine. Celui, et voilà ce qu'on dit de lui. Donc on n'a pas peur de dire que Jésus aimait de cette manière humaine. Celui que tu affectionnes s'affaiblit ou est faible, et ayant entendu Jésus dire, cette faiblesse n'est pas près d'une mort. Elle n'est pas liée à une mort. Une mort au sens où vous la voyez d'habitude. Cette faiblesse a un autre sens. Une faiblesse, une dégradation, une vieillesse n'a pas comme signification la mort. Bien que c'est ça que nous y voyons d'habitude. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc elle est un passage vers Dieu. Elle est pour manifester l'amour de Dieu manifeste. C'est ça la gloire. L'amour de Dieu qui devient évident. Mais pour la gloire de Dieu, afin qu'elle soit glorifiée, le Fils de Dieu paraît. Donc la mort de Lazare va glorifier le Fils de Dieu. Pourquoi ? Mais parce qu'elle va être mise en rapport avec la mort de Jésus, qui est précisément le signe de la gloire. Tout cela ne vous est pas encore dit. Il faudra attendre le reste du développement pour voir que la montée de Jésus sur la croix est une montée en gloire. Mais il nous en dit déjà quelque chose, pour que nous ne soyons pas attristés par cette réalité de mort, mais pour que nous la regardions bien en face. Or, il aimait Jésus, Marthe et sa sœur Thérèse. On a d'abord vu Lazare venir dans le texte, puis Marie, puis Marthe. Et puis là, Jésus aime Marthe et sa sœur Thérèse. Et là, je m'aime, on se voit. Vous voyez que l'ordre est inversé. L'ordre d'entrée dans le récit, et puis l'ordre de l'affection, si vous voulez, de Jésus. En conclure quelque chose qui en aime plus l'une que l'autre, vous voyez bien, il aime et.
Tu veux pas expliquer comment.
Ah oui, c'est bien.
Oui. C'est que maintenant, c'est encore pour la gloire
de Dieu. Oui, oui.
On dirait que la souffrance de l'humanité existe pour la gloire de Dieu.
Oui, bien sûr.
Oui.
Parce qu'il n'y a rien qui échappe à la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui échappe. Ou bien, alors, la souffrance, je dirais, n'est pas pénétrée de l'amour, c'est-à-dire de la gloire de Dieu, en eux. On ne dit pas que la souffrance est un bien, comme on ne dit pas que l'opposition est un bien.
Mais la gloire de Dieu est un bien.
Mais la gloire de Dieu traverse ce que nous appelons le mal. Il y a une direction à travers ce que nous vivons. Or nous, nous reprenons l'image de la soif que je vous disais l'autre jour, nous prenons toujours les choses par le petit, c'est-à-dire ce qui nous fait souffrir, nous parle. Et nous ne voyons pas qu'à travers cette souffrance, et dans la mesure où même où cette souffrance est acceptée librement comme Jésus, il n'était pas tenu de souffrir, il n'était pas tenu de pleurer avec, il n'était pas tenu de laisser mourir son frère Lazare, son ami Lazare. Il n'est pas tenu à cela. Mais il veut montrer que même ce qui nous apparaît comme la souffrance la plus atroce, c'est-à-dire la mort, il est capable de la traverser comme source de vie. Il vient de le dire avec l'aveugle nez.
Oui, mais pourquoi est-ce que la souffrance est tenue? On a de dire que l'être humain est dans la peine, il est à peur du bien humain, et bien ça, peut-on se le dire pour la gloire de Dieu?
Non, ce n'est pas comme ça qu'il dit. Ça, c'est la manière dont nous le lisons. C'est pas « tu peux te consoler », c'est la gloire de Dieu. Il dit « tout est la gloire de Dieu, donc la mort ou la souffrance, il faut la regarder dans cette gloire de Dieu, et pas la regarder d'abord à partir de toi qui souffres. »
On a entendu dire, hein, qu'on disait que s'il y avait des gens qui étaient pauvres, qui souffraient de la pauvreté, c'est pour que les riches, hein, puissent faire un acte
charitable. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout.
C'est pas le même style.
Non, ah, pas du tout. La seule différence, ah non, la seule différence, et elle est d'une grande ampleur, aussi grande que le ciel est éloigné de la terre, c'est que c'est Dieu qui se trouve en elle. C'est la gloire de Dieu, c'est pas la gloire de l'homme.
C'est pas la gloire du riche médecin.
Non. C'est pas pour permettre au médecin de gagner sa vie. Ça, ce sont des choses où on ne comprend pas. Ce qui veut dire, ce qui est dit ici, c'est que rien n'échappe à la réalité divine. Donc, la colère est ordonnée à la gloire de Dieu. La souffrance est ordonnée à la gloire de Dieu. La vie de tout homme est ordonnée à la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui ne soit pas ordonné à la gloire de Dieu.
Et c'est une consolation pour le
croyant. Ah, ah oui.
Même si Régine...
En plus. En prime, c'est une consolation pour le croyant. Mais en prime. Ah oui, pour les uns et pour les autres. Oui, mais ce qu'il y a là derrière, vois-tu, c'est que le Seigneur, comme d'ailleurs tout le judaïsme, ne veut pas faire de manichéisme. Il n'y a pas la souffrance, c'est le mal, et le bien-être, c'est le bien. Tu as la même chose dans la parole de Job. Si je reçois la santé comme un don de Dieu, le bonheur comme un don de Dieu, pourquoi ne recevrai-je pas de la même manière le malheur? Dieu est maître de toute la réalité. Il ne veut pas la réalité de la souffrance, mais il ne peut pas faire autrement. Nous avons déjà redit un certain nombre de fois, mais comment Dieu peut-il faire qu'un être limité et conscient de sa limite ne ressente pas sa limite comme une souffrance? Il ne peut pas le faire, parce que ce serait nier, alors il ne va pas créer. C'est fini. Créer des marionnettes, alors c'est créer une nature végétale et animale. Point. S'il crée un être, même les animaux, ont quelque chose de conscient, et même les arbres, s'il crée quelque chose qui est capable de ressentir ce qu'il vit, de ressentir sa limite de créateur, de créature, et il en souffre. Et en même temps, il est capable, parce qu'il est créature, de ressembler au Créateur, c'est-à-dire d'assumer sa réalité de créature. Et c'est précisément ça être fils, accepter d'être limité, amoureusement limité. Alors voilà comment Pierre-Emmanuel le dit, il le dit aussi très bien, allez voir. Mais une chose à la fois. C'est vrai que c'est quelque chose d'impossible à comprendre, nous, à partir de nos lumières. Nos lumières ne sont pas assez grandes pour voir cela. Parce que nous prenons la souffrance toujours à partir de nous. Or Jésus a pris la souffrance à partir de lui. La réponse à la souffrance, c'est que Jésus l'assume alors qu'il n'est pas tenu du tout de l'assumer. Au contraire. Alors que son être, en quelque sorte, répugne à la souffrance. C'est précisément ce qui est en train de nous être dit ici quand Jésus se met à verser des larmes. Il verse des larmes, c'est-à-dire, il découvre qu'il est au diapason des pleurs de ces deux femmes. Et je dis bien, c'est pas facile. Cette faiblesse n'est pas pour une mort, mais pour la gloire de Dieu. Autrement dit, regardez les choses d'un autre point de vue que le vôtre. Regardez les choses à partir de la gloire de Dieu. Saint Ignace dirait, regardez les choses à partir du principe de fondement. Non mais créé pour aimer et servir Dieu. Ça c'est la première chose. Ça c'est plus important que tout le reste. À partir de là, on pourra réfléchir sur la mort. Mais d'abord la gloire de Dieu. Vous commencez par la mort, il n'y a plus moyen de la situer. C'est un peu cela. Jésus est toujours en train de renverser les perspectives de l'homme. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est terrestre est terrestre. Pensez un petit peu autrement. Mais pour la gloire de Dieu, afin que fût glorifié le Fils de Dieu par elle. Alors, je sais bien, on peut le comprendre comme Régine le comprenait du médecin. Donner un petit peu à Jésus la possibilité.